CFM, en Tarn-et-Garonne. Le MAG.
Et bonjour à toutes et tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition du MAG, le magazine d'actualité locale, où pour la deuxième partie, aujourd'hui on recevra les artistes Les Coloriés en résidence de territoire sur une invitation de l'association Billy Billy. Ils se trament à Caylus et Saint-Projet de nombreux projets autour du conte et de la musique sur le thème de l'arbre et de ses racines. On vous parlera dans la deuxième partie du programme de leurs activités qui nous sont proposées, mais en première partie, conférence pour ce samedi du côté de COSAD, une conférence proposée par l'Université Populaire, une conférence autour du conflit, France-Italie, conflit mémoriel autour des années de plomb. Ce sera une conférence qui sera proposée par Daniel Mariotto, qui est avec nous par les fils du téléphone. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes présidente de l'Université pour tous, Cahors Quercy. Vous êtes aussi titulaire d'une maîtrise de sciences humaines, mention histoire. Alors, on va peut-être commencer cet entretien par une définition. Les années de plomb, qu'est-ce que c'est ?
Alors, les années de plomb, c'est une période très dramatique de l'histoire de l'Italie, période que l'on situe entre 1960-1980. Mais il y a eu des soubresauts de cette crise à la fois politique et sociale jusque dans les années 2000. Et on l'a appelé les années de plomb à la suite d'un film qui a été réalisé en Allemagne qui s'appelait Les années de plomb. Alors pourquoi en Allemagne, eh bien parce que on est dans la période où en Europe, autour des années 60-70, il y a énormément de mouvements sociaux, de mouvements ouvriers. C'est le cas en France, par exemple, avec les événements de mai 68. Et donc, ces années de plomb ont eu lieu en Italie, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Mais la caractéristique pour l'Italie, c'est qu'elles ont une double matrice idéologique. C'est qu'on assiste à la confrontation entre des groupes d'extrême droite, qui sont l'héritage du fascisme, et des groupes d'extrême gauche, qui entre dans un mouvement de violence révolutionnaire, parce que malgré la présence d'un parti communiste italien qui est extrêmement fort, ils ne se reconnaissent pas dans ce parti veut s'insérer dans une Italie démocratique et respectueuse de ses institutions. Donc ces groupes armés d'extrême gauche considèrent que il n'y a pas à gauche de parti pour les représenter correctement.
Alors, il me semblait que les années de plomb, il n'y en avait pas que en Europe, qu'elles n'étaient pas non plus clairement définies sur une frise chronologique, ou plutôt si, mais pas forcément contemporaines des unes des autres, mais qu'elles étaient caractérisées, donc dans l'ensemble du monde, hein, par la violence politique.
Non, dans le cas des années de plomb, c'est vraiment un phénomène italien qui a sa correspondance en Allemagne, dans les Pays-Bas, en France, mais pas du tout sous le même format. Là, on est vraiment dans un mouvement entre des groupes d'extrême droite et des groupes d'extrême gauche, et avec, en plus, un contexte politique très particulier. C'est-à-dire que il ne faut pas oublier que nous sommes dans les lendemains, même si c'est un peu plus tardif, de la Seconde Guerre mondiale, que à cette époque-là, l'Europe est partagée entre l'Europe communiste et une Europe non communiste, et que il y a une sorte de cordon sanitaire qui a été dressé avec l'appui des États-Unis qui va de la mer Baltique jusqu'à la mer Adriatique. Et l'Italie, elle est juste à la limite de ces deux zones. N'oublions pas qu'en face, il y a la Yougoslavie communiste, les pays communistes. Et donc, pour les États-Unis, la situation italienne à cette époque-là, c'est quelque chose d'extrêmement important. Les États-Unis ont installé des bases militaires un peu partout en Italie. Et pendant toute cette période des années de plomb, le gouvernement italien, en l'occurrence la démocratie chrétienne, va beaucoup s'appuyer sur les expertises et les services secrets américains. Et quand on arrive, par exemple, en 78, à ce qui est le point d'orgue des années de plomb, qui est l'enlèvement, la séquestration et l'assassinat d'Aldo Moro, président de la démocratie chrétienne, on est vraiment dans une... On le sait aujourd'hui, parce qu'on a le recul avec les études historiques, toutes les recherches qui ont été faites là-dessus, on est vraiment dans une manipulation de plusieurs mouvements contradictoires entre parti communiste, démocratie chrétienne, influence des services secrets américains, et il ne faut pas l'oublier, ce qu'on a appelé la stratégie de la tension, c'est-à-dire que les mouvements d'extrême droite vont perpétrer pendant une dizaine d'années une série d'attentats extrêmement violents qui sont destinés à déstabiliser la population, la société, pour aboutir à l'instauration d'un État autoritaire. Et en contrepartie, les groupes d'extrême gauche vont faire de la surenchère par rapport à cette stratégie de la tension.
Alors, on va parler de la recherche historique franco-italienne actuelle autour donc de ces années de plomb. Mais dans la conférence que vous allez proposer ce samedi, vous faites une comparaison entre les perceptions françaises et italiennes, notamment autour de la polémique autour de la doctrine Mitterrand.
Alors, je vais préciser un peu les choses. J'ai déjà fait cette conférence à l'université pour tous qu'à Auxerre, et j'avais abordé les conflits mémoriels et la doctrine Mitterrand. À cause ça, comme le format de la conférence est un peu plus court, je vais aborder ces conflits mémoriels, je vais parler de la doctrine Mitterrand, mais j'insisterai beaucoup moins sur cet aspect et sur la recherche historique. Mais ce qui est important de préciser, c'est que cette doctrine Mitterrand n'a jamais eu de valeur juridique.
Alors, en quelques mots, il refusait l'extradition.
On dit beaucoup de choses qui sont fausses sur cette fameuse doctrine. Disons que, avant d'être au pouvoir, le Parti socialiste, et donc François Mitterrand, avait une certaine indulgence pour les mouvements de gauche et d'extrême gauche en Italie, et qu'ils étaient favorables à l'accueil d'un certain nombre d'exilés politiques italiens qui étaient recherchés. À partir du moment où François Mitterrand a été président de la République, cette doctrine, donc, qui était en quelque sorte l'accueil des exilés politiques, a pris un tour nouveau, parce que d'abord il travaillait beaucoup avec le président du Conseil italien, qui était un socialiste, Bettino Craxi, qui avait des raisons intérieures et diplomatiques que je ne peux pas développer là, qui ont fait que il y a eu une inflexion de la doctrine. Elle a été maintenue, mais avec la précision que cet accueil d'exilés politiques ne pouvait pas l'être pour des personnes ayant commis des crimes de sang. Et c'est là qu'il y a la fameuse affaire César et Battisti, qui a défrayé la chronique, avec même un collectif d'intellectuels qui l'a soutenu au nom que la France ne pouvait pas trahir sa parole, qu'il n'était pas question de l'estrader. Mais en fait, cette doctrine n'avait pas de portée juridique. C'était une simple affirmation politique qui n'a même pas été validée en Conseil des ministres. Et donc, on sait aujourd'hui, par exemple, que le cabinet de Robert Badinter, qui était à l'époque ministre de la Justice, a eu les preuves de la part de la justice italienne que Battisti avait vraiment commis des meurtres. En l'occurrence, il a commis 4 meurtres. Mais il y avait ce mouvement d'intellectuels qui prétendait que à cause des lois d'exception qui faisaient que des repentis pouvaient accuser tel ou tel, le fait que Battisti avait été condamné par contumace en Italie, tout cela n'était pas correct, n'était pas un respect du droit pénal comme il devrait être, et donc il y a eu tous ces malentendus. Mais en fait, le Conseil d'État a refusé le fait que Battisti allègue de cette doctrine pour ne pas être extradé. Donc il a fui en Amérique du Sud, il est passé par plusieurs pays, et finalement la Bolivie a décidé de l'extrader et de le rendre à l'Italie. Et d'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'un mois après son retour en Italie, où il a été condamné à la prison à vie, il l'était déjà depuis longtemps, puisque c'était une condamnation par contumace. Il a reconnu qu'il avait effectivement, qu'il était l'auteur de ces 4 meurtres, et il a même dit qu'il n'avait pas eu besoin de forcer certains intellectuels français pour se défendre. Donc son profil prémédiatique, parce qu'il écrivait des romans policiers, il a été soutenu notamment par Fred Vargas, auteur de romans policiers, qui d'ailleurs a assuré sa fuite, a payé ses avocats, et qui même aujourd'hui encore, contre l'évidence et contre les déclarations même de Battisti, refuse de reconnaître qu'il n'était pas innocent. Donc c'est très important tout ce qui s'est passé après cette doctrine Mitterrand, parce qu'il y a eu des interprétations très fantaisiste, alors que finalement, au final, Mitterrand avait reconnu auprès des Italiens que lorsqu'il y avait crime de sang, il ne pouvait pas y avoir d'accueil de ces exilés en France. Et cela a perturbé pendant quelques années les relations diplomatiques entre la France et l'Italie.
Et vous proposez là pour la conférence de montrer les voies de comparaison entre terrorisme en France et en Italie. Un sujet qui est encore là débattu par la recherche historique.
Oui, alors écoutez, ça je ne le ferai pas, parce que je vous le dis franchement, j'en dirai simplement un mot très rapide. C'est parce que le format de la conférence ne me permet pas de tout aborder.
Donc, vous allez plus aborder les différentes polémiques donc autour de cette doctrine Mitterrand,
je vais surtout évidemment décrire les années de plomb. Je vais un peu insister sur Aldo Moro et l'affaire Aldo Moro, parce qu'il y a des choses récentes dans la recherche historique qui permettent maintenant de montrer qu'il y a eu une manipulation à tous les niveaux, et que les Brigades Rouges, qui sont l'auteur de cet assassinat, ont quand même été fortement manipulés par les services secrets américains, en lien avec les responsables de la démocratie chrétienne, qui n'avaient pas intérêt avoir Moreau sortir vivant de cette affaire. Il a été sacrifié, Aldo Moreau. C'est un crime d'État, ce qui est arrivé à Aldo Moreau. C'est pas un simple assassinat par les Brigades Rouges. Donc, je vais insister là-dessus. Je parlerai des différences entre la perception française et italienne, justement, par rapport à la doctrine Mitterrand et au problème des exilés. Mais la comparaison entre terrorisme, non, je n'aurai pas suffisamment de temps pour la faire. Simplement, il faut savoir que l'historien sociologue Marc Lazare, qui est un spécialiste de l'histoire de l'Italie contemporaine et des années de plomb, a rappelé que au moment où il y a eu, par rapport aux attentats en France, les attentats islamiques, vous savez qu'il y a eu une polémique entre Gilles Kepel, l'historien qui parlait de radicalisation de l'islam, et Olivier Roy, qui lui parlait d'islamisation de la radicalité, donc une conception particulière pour voir le terrorisme. Et Marc Lazare dit que ça rappelle beaucoup ce qui s'est passé pendant les années de plomb, où on faisait la différence entre ceux qui insistaient sur la dimension politique et idéologique du terrorisme de l'ultra-gauche et ceux qui privilégiaient l'approche en termes de dynamique sociale, de cycle de protestation et de radicalisation. Je m'en tiendrai là. Je ne peux pas aller plus loin parce que en une heure, je n'ai pas suffisamment de temps pour exposer tout cela. Mais c'est un sujet très intéressant.
Ce sera ce samedi à 16h30 au Récollet de Caussade, cette conférence France-Italie, conflit mémoriel autour des années de plomb. C'est la dernière des conférences qui est proposée dans le cycle de l'Université populaire de Caussade, et elle sera en partenariat avec l'Université pour tous, Cahors Quercine, dont vous êtes la présidente, Danelle Mariotto. Vous êtes aussi titulaire d'une maîtrise en sciences humaines, mention histoire, et c'est vous qui allez proposer cette conférence gratuite de ce samedi. Un grand merci, Danielle, et à samedi.
Merci beaucoup, au revoir.
T'es ma béquille, mon carglass qui répare. T'es mon attel, mon calmant, mon épar. T'es mon futur qui tuera mes ex. T'es ma stature, mon Viagra, ma contrex. T'es mon bingo, mon kéno, mon loto. T'es mon point G, mon point P, mon poteau. Ma vache qui rit quand je suis en pleurs. T'es mon kiri, mon petit cœur. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Mon mercurochrome, t'es moins stupide que nous qui sommes des hommes. T'es mon ensemble, mon parfum, douce odeur. T'es mon sapin sur mon rétroviseur. T'es mon écharpe, mon bonnet et mes gants. T'es mon palmier dans mon verre de russe blanc. T'es ma station essence quand je me perds. T'es mon week-end, ma première bière. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps. Si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps, si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. Si le temps passe, je t'aime autant. T'es mon plus un quand je chope des invites. T'es mon amante, mon ami, mon instit. T'es ma soupline, t'es mon huile essentielle. T'es ma tartine, ma confiture de miel. T'es ma Charlotte, le bon, t'es ma bourgoin. T'es ma chance pour de bon, t'es mon bon point. T'as le compte Instagram que je mate le plus. T'es mon son préféré quand on attend le bus. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant. Tout le temps si le temps passe, je t'aime autant.
CFM Kélus, le mag.
La patate.
Deuxième partie de ce mag où on reçoit les deux artistes en résidence de territoire proposés par l'association Bilibili. La résidence de territoire, ça fait 2 semaines qu'elle a commencé et ces deux artistes seront là en pointillé 2 semaines par mois jusque juin. Ces deux artistes en l'occurrence, c'est Charles Paysan, bonjour.
Bonjour.
Et Sarah Even, bonjour aussi.
Bonjour.
Respectivement photographe et conteuse et musicienne, vous organisez tout un Radix Codex, puisque la résidence de territoire porte sur la thématique de l'arbre et de ses racines. En 2 semaines, vous avez déjà organisé pas mal de choses, et puis il en reste encore là pour cette fin de semaine. De quoi on parle ?
Bah, du coup, on a déjà été voir les jeunes pousses à l'école de Caylus, et on retourne les voir ce jeudi. On est aussi fait un petit tour auprès des vieilles branches à l'EHPAD, où on a rencontré des anciens et des anciennes qui nous ont raconté des souvenirs autour de Saint-Projet et ses environs. Ça, c'était mardi.
Et de Saint-Antonin aussi.
Et de Saint-Antonin.
Au fond du Bosc.
Tout à fait. Et ce soir se déroule le deuxième atelier d'écriture à la médiathèque de 18h à 20h. Il reste des places, c'est sur inscription. Il suffit d'envoyer un mail à la médiathèque de Caylus.
La première séance qu'on a eue la semaine dernière, on s'est attaché à choisir chacun et chacune un personnage de la forêt, un habitant. Et on a développé ce personnage en lui donnant une personnalité, une histoire. Et on s'est plutôt bien amusé avec Bob le Blob, Hector le Lombric
et Jim
l'Écureuil, voilà. Et voilà, ces personnages qui vont du coup construire un conte tout au long de la résidence.
Mettons qu'on a loupé la première séance de la semaine dernière, est-ce qu'on peut quand même venir ce soir et venir aux prochains ateliers d'écriture à la médiathèque de Caylus ?
Tout à fait, en ramenant des viennoiseries, des trucs comme ça, ce sera tout à fait pardonné.
Tout à fait. Et on peut aussi nous retrouver pendant nos temps de résidence où on est présent sur place, le samedi matin au marché de Caylus, où il y a un petit stand et vous pouvez venir échanger avec nous. Et il y a aussi samedi prochain à 14h30 une balade botanique avec un botaniste et un moment poétique qui sera sûrement avant ou après la balade.
Il faut tout est entièrement gratuit hein, puisque vous êtes donc en résidence de territoire. Tout est gratuit, mais par exemple pour la balade, vaut mieux réserver ici auprès de l'association Bilibili. Alors pour ce faire,
tout à fait.
coucou@bilibili.fr, sinon sur leur site internet, il y a tout le détail de ce que vous allez proposer au quotidien à la résidence de territoire pour les habitants. Vous êtes à notre disposition. On peut donc faire appel à vous si on a une idée d'initiative autour, donc on le redit, de l'arbre et de ses racines.
Tout à fait, et on va aussi recueillir des souvenirs chez des anciens et des anciennes. Donc si jamais vous connaissez une personne qui connaît moult histoires sur la forêt, les arbres du coin, on est preneurs et preneuses.
Et puis pas forcément que les anciens et les anciennes, aussi des personnes plus ou moins jeunes. On a eu l'occasion de rencontrer déjà pas mal de monde au marché, et aussi voilà, au fil des rencontres, quoi. Et c'est top, quoi, parce que les gens sont intéressés, ils ont plein de choses à raconter.
Et en parlant de se raconter, il se dit dans les bois, dans la forêt, que vous avez déposé des boîtes aux lettres un petit peu partout sur le territoire.
Oui, tout à fait.
On va
en déposer une à Saint-Projet, une autre à Lauze et deux à Caylus. C'est des boîtes aux lettres en bois. Il y en a une qui est faite en tronc. Et si jamais vous avez des histoires à nous raconter autour des arbres, des petits conseils de randonnée ou autres astuces autour des arbres, n'hésitez pas à glisser vos lettres dans les boîtes aux lettres.
Puisque cette résidence tournait autour de l'arbre et de ses racines, mais aussi autour du conte. C'est comme ça, pour ça, grâce à ça, que vous avez été sélectionnés tous les deux. Sarah Even et Charles Paysan, donc artistes en résidence grâce à l'association Bilibili. On vous retrouve dans 2 semaines, c'est ça ? Sur quel lieu c'est un projet ?
On revient, il est le 1er avril, qui est quand même le jour national des blagues. Donc peut-être on préparera des choses pour ce 1er avril, on verra bien. Et jusqu'au 14 en tout cas.
Et puis on vous retrouve demain aussi dans ce mag, où comme la semaine dernière on aura droit à un billet d'humeur. La semaine dernière c'était le billet d'humeur d'une aubépine. Et demain
ce sera un frêne qui se sent un peu seul.
sur fond de harpe électrique jouée par vous-même, Sarah Even et Charles Paysan, pour le collectif Les Coloriers, invité par Billy Billy pour cette résidence de territoire. Merci beaucoup tous les deux.
Merci.
Merci.
Et merci à tous et à chacun de nous avoir suivis tout au long de ce mag qui sera, comme d'habitude, rediffusé à 21h ainsi qu'à 18h. Et là, c'est les infos.